un pas de côté.
Bienvenue dans Un pas de côté, votre magazine d'évasion touristique en Vercors Drôme. C'est l'édition d'avril 2023 et nous sommes comme d'habitude en compagnie de Damien de l'Office du tourisme Vercors Drôme. Bonjour Damien.
Bonjour Anouchka, bonjour à toutes et tous pour ce nouveau pas de côté.
Oui, c'est le pas de côté du mois d'avril et ça y est Damien, on a envie de retourner dehors.
Et oui, on sent le printemps qui arrive, les arbres retrouvent leurs feuilles petit à petit. Nous le voyons, on le voit dans le paysage, de jour en jour, la nature reverdit, toujours plus haut en altitude. Sortir, aller au dehors, retrouver la convivialité des soirées entre amis. Voici donc le fil rouge de cette édition du mois d'avril.
Tout à fait Damien, c'est officiellement le printemps. Et donc côté reportage, on débute ce magazine en pleine nature par une déambulation sculpturale et poétique au col de l'Écharasson. Il s'agit du sentier Les Yeux Miroflés, donc qui est un sentier ponctué d'œuvres tressées en osier, noisetier, clématite et autres essences dans la forêt qui a été aménagée par l'association Cause au Balcon. C'est un sentier qui nous invite à lever les yeux durant notre balade. Et Patrice s'est promené sur ce sentier, accompagné de Jérôme Ossibal, le directeur artistique de Cause au Balcon et le fondateur du projet, et en compagnie également d'Amandine Banal, cofondatrice du projet, avec la participation de Colline Dabestani pour le parc du Vercors.
Alors juste en préambule, miroflé, ça signifie pas forcément un temps mirobolant.
Un petit coin de parapluie pour un petit coin de paradis. Le bruit de la pluie sur le pépin, pour vous dire que on a réalisé ce sentier il y a 2 ans. C'est une proposition d'ouvrage collectif, donc avec un collectif de vanniers, les tresseurs. Et du coup, on est parti beaucoup avec les éléments qu'on pouvait trouver sur place. Et puis avec ce que ça peut représenter, en fait, de se promener dans cette forêt, et comment le paysage peut s'ouvrir, comment on va poser notre regard, chercher. La première œuvre, là, c'est Miroflé, qu'on trouve en partant du carrefour des Charbonniers. Et le Miroflé, il est perché en haut d'un arbre. Et en fait, cet arbre, il m'a vraiment interpellé parce que, il était seul au milieu de la forêt, quoi. Seul, mais dans un fût qui monte comme ça. Et donc, l'œuvre, elle est quand même à 15 mètres de haut. Elle fait 4 mètres de haut, l'œuvre. On s'en rend pas vraiment compte. Voilà, c'est toutes des histoires de proportions. Et en fait, lui, posé sur sa branche, il scrute, il regarde. Et on voit bien qu'il voit au-dessus de la canopée. Il attend sa belle Mirette. Jérôme Ossibal, je suis sculpteur à Saint-Julien-en-Vercors et avec quelques amis, on a eu envie de poser des œuvres dans le paysage et on a monté une structure qui s'appelle Cause au Balcon qui a pour vocation d'interroger comment on traverse le paysage et comment ce paysage nous traverse. Voilà, c'est un regard sensible. Une invitation à aller plus doucement, à ralentir, voire à se perdre.
Une invitation à lever les yeux aussi.
À lever les yeux, voilà, et puis pour être en introspection, en tout cas, dans une communion avec la forêt.
Amandine Banal, accompagnatrice de projets culturels et de leur mise en œuvre.
et je suis membre active de Cause au Balcon. Et j'ai eu la chance de participer à la mise en place et à la résidence d'installation des yeux miroflés du sentier au printemps 2019. Et peut-être rappeler que ce sentier a été mis en place sur une invitation et une commande de la communauté de communes Royan-Vercors dans le cadre de Comblaval fait son cirque. C'est vrai que les yeux miroflés, c'est peut-être en tout cas une étape importante dans l'histoire de Cause au Balcon, la petite et jeune histoire de Cause au Balcon, parce que c'est peut-être le premier partenariat un peu officiel avec la communauté de communes et voilà. Le début d'une nouvelle étape dans la vie de l'association et ce projet.
Alors parlons de ce voyage singulier, le parcours pour arriver justement un peu à l'aplomb de ces œuvres et de l'osier. Comment s'y rendre ?
Alors là, on est juste au-dessus de Comblaval. On est sur la petite route qui passe au col de l'Écharasson, entre le col de la Machine et puis du coup là, voilà, ça passe par au-dessus, ça rejoint la route de Comblaval. Toute la question est de savoir à quel moment on va pouvoir effectivement avoir cette levée de paysage et cette vue sur la Combe, sur tous les hauts plateaux, cette ouverture de paysage qu'on cherche. On sent bien que c'est pas loin, mais on est dans une forêt habitée. Voilà.
Un pas de côté.
Merci donc à Jérôme Ossibal, le directeur artistique de Cause au Balcon, et à Amandine Banal, la cofondatrice de ce projet, le Sentier des Yeux Miroflés, je vous le rappelle, au col de l'Écharasson. Et on reste en pleine nature avec notre deuxième sujet de reportage, un sujet sur une sortie à laquelle vous avez participé, Damien.
Oui, une belle sortie avec Romain Ribeiro de Enquête de Nature. Donc Romain est un guide naturaliste.
C'est ça, qui propose donc des sorties sur notre territoire. Et donc vous êtes sorti avec lui au col de Carry pour un temps d'écoute et d'observation des oiseaux au micro de Patrice. On écoute.
Elle nous passe au-dessus là. Ah bah voilà. On l'a entendu, la maison jupée, là. C'est marrant, on les entendait pas tout à l'heure. Hein. Des fois, je me demande si c'est pas une espèce d'alarme collective qu'on déclenche, nous, en arrivant. Ils nous identifient comme pas forcément prédateurs, mais il y a une présence. Du coup, ils annoncent ça à leurs collègues, quoi. Puis ça se répand. C'est ce qu'on a de plus commun hein, dans les forêts du Vercors. Là. Ce qu'on entend, c'est des chants de mésanges noirs. Une des plus petites mésanges, là, qui fait en 10 cm. Si vous connaissez le chant de la mésange charbonnière, ça se ressent beaucoup. C'est Romain, je suis guide naturaliste, habitant à Saint-Jean-Royan. Et depuis toujours, en fait, hein, j'ai été attiré par le règne animal, mais en général. Et puis, coup de chance, c'est que j'habite dans le Vercors. Donc forcément, ça a déclenché encore plus cette passion. Et puis au bout d'un moment, on fait les choses tout seul, puis on rencontre des gens, on progresse, on commence à apprendre des choses. Et puis à force d'accumuler des choses, on a envie de les partager. C'est toujours, ça fait toujours plaisir quand on partage quelque chose qui nous plaît, quoi. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire ça, donc à savoir des sorties nature, voilà, des animations pour tout public, principalement dans le Vercors de Rome. Et pour traiter en particulier la faune, parce que c'est quand même le règne qui m'intéresse le plus et voilà, celui dont je passe le plus de temps à étudier aussi. Parce qu'au-delà de la partie animation, sortie, pédagogie, en fait, il y a différents suivis d'espèces que je réalise. En parallèle, et j'essaye de lier un petit peu les deux en fait.
Il y a aussi des activités dans des associations locales de...
Ouais, donc entre autres, dans ces missions de suivi et d'animation, c'est directement en lien avec l'ALPO, la Ligue de protection des oiseaux, donc, et de la biodiversité maintenant. Mmh. On a un groupe local dans le Royan-Vercors avec des actions spécifiques. C'est pour ça qu'on est un groupe indépendant en fait. Et parmi ces actions, on peut avoir du suivi de populations d'aigles royaux, des comptages chamois et le suivi des petites chouettes de montagne, qui va peut-être nous concerner ce soir si on a de la chance. C'est jamais une garantie hein, au milieu des... dans un milieu naturel. Mais en tout cas, ouais, c'est en partie lié à l'ALPO, ce genre de suivi. Ouais. Alors là, on est sur le plateau du Vercors, au col de Carry. Voilà, une altitude de 1200 mètres, donc on est sur une forêt qui représente bien celle du Vercors, à savoir type montagnarde. Donc là, autour de nous, imaginez qu'on est entouré de sapins, de hêtres, d'épicéas. Et forcément, quand on a une telle surface forestière, parce que le col de Carry est entouré d'une forêt qui fait plus de 10 000 hectares, forcément, on n'est pas seul. Il y a des petites bestioles, des plus grandes. Et là, si vous tendez l'oreille, on entend une ronde de mésanges. Une ronde, c'est qu'elles sont, elles sont groupées, en fait, mésanges noires. Et tout à l'heure, on a eu les mésanges huppés. Les enjupés qui chantent un petit peu comme une bille qui rebondirait vite sur du carrelage. Là. Ça fait une vibration très aiguë. Elle nous passe au-dessus, là. Ah bah voilà, on l'a entendu, la maison jupée, là. C'est l'espèce de petite vibration qu'on entend. Après, les chants d'oiseaux, c'est souvent quelque chose chez les petits ou les grands qui peut freiner. On a l'impression que c'est inaccessible, que c'est compliqué, mais en fait, tout le monde a les moyens... d'en apprendre davantage. En fait, c'est une question de sensibilité, quoi. C'est ce que je dis souvent, moi. C'est que chaque personne a son imaginaire, a ses moyens pour apprendre, pour associer un chant à une image, à quelque chose comme ça. Et en travaillant dessus, ça fait que décupler l'apprentissage. Le plus dur, c'est le départ, hein, comme le solfège ou des choses comme ça. Et plus on apprend des chants, plus on progresse et on en apprend plus facilement d'autres. Parce qu'on retient des tonalités, des vitesses, plein de choses comme ça. Et on se rend compte que même dans nos forêts, parce que souvent, voilà, on pense à la faune exotique, tropicale, on a quand même une grande diversité, même à travers des champs. Si on entend un tétralyre, ça ne sera pas comme une chouette-hulotte ou une buse, par exemple. Là, la différence, elle se fait bien, bien nettement. Il faut mettre ça en pratique. C'est toujours pareil. Et c'est là où certains auront peut-être plus de facilité que d'autres. Donc, commencer par des espèces qu'on affectionne plus au début, pour que ça suscite la motivation. Mais après, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, c'est l'école de la nature. Voilà, c'est pas pour rien. Hein. Il faut passer du temps dehors. Mmh. Ce qui peut aider aussi, c'est en même temps essayer de trouver l'oiseau qu'on entend. En ce moment, c'est une période qui s'y prête bien parce que les chants reprennent de plus en plus en intensité et il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres. Donc visuellement, ça aide. Au printemps, ça va devenir compliqué parce que imaginez qu'on cherche un roitelet huppé. Le plus petit oiseau d'Europe qui fait 8-9 cm de long, qui a 25 mètres dans un sapin, vous allez passer du temps là. Donc connaître les champs d'oiseaux, c'est aussi ça. Après, on a l'impression d'avoir un genre de pouvoir en fait, où sans forcément chercher les espèces, on peut détecter ce qui est présent, absent. Ça donne une bonne idée de la diversité qu'on peut avoir autour de nous.
Et l'oreille s'aiguise au fur et à mesure du temps.
Et après, ça se développe, voilà. C'est toujours, comme je disais, une question de sensibilité.
Eh bien, merci en tout cas, Romain, pour cette chouette balade au son, au rythme des oiseaux. La nuit tombe, on va peut-être... rentrer. On n'est pas forcément équipé pour passer la nuit ici. En tout cas, pour te contacter... Comment on s'y prend si on souhaite faire une sortie avec toi?
Je vous invite à aller sur mon site internet, donc c'est enquête-de-nature26.com, où vous verrez un petit peu une présentation de mes activités en général, les suivis, tout ça. Et autrement, mon numéro de portable, donc 06 17 21 03 14, 06 17 21 03 14, et mon adresse mail enquête-de-nature.26@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous.
Merci. On précise que dans la Gazette de l'Office de Tourisme Vercors-Drôme, Tes sorties sont mentionnées notamment pour ces sorties autour des chouettes.
Exactement, voilà, chaque sortie, chaque programmation paraît dans la gazette et sur le site vercordrome.com.
Super, merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Pas de côté.
Merci donc à Romain Ribeiro d'Enquête de Nature qui propose des sorties naturalistes sur le territoire du Royan-Vercors. Et des chants d'oiseaux, on passe maintenant au cliquetis des verres que l'on entrechoque pour trinquer. Je me suis rendue en effet à La Machine, une brasserie artisanale et coopérative de bière installée depuis 2020 au cœur du village de Saint-Laurent-en-Royan, pour rencontrer Rami, l'un des deux fondateurs de cette brasserie. Est-ce que vous avez déjà testé leur terrasse, Damien ?
Alors, je n'ai pas encore eu la chance de tester la terrasse, mais j'ai déjà goûté leur excellente bière.
Tout à fait, et c'est vrai que je les ai déjà goûtées aussi, et je peux confirmer. Et donc, La Machine, après avoir ouvert une terrasse, donc au beau jour, pour consommer leur bière, ils nous proposent donc désormais une buvette à l'intérieur de leur atelier de production, à l'abri des intempéries. Et c'était l'occasion pour nous de leur rendre visite. Rami est revenu à notre micro sur la création de La Machine et nous raconte cette aventure qui dure donc depuis 2020. Rami, bonjour, vous êtes l'un des fondateurs de la brasserie artisanale La Machine qui se situe donc au cœur du village de Saint-Laurent-en-Royan. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de la création de La Machine en 2020 ?
Alors, on a créé la brasserie de La Machine avec Sylvain Billet. Alors, l'idée est née en 2018 ou 2019, il me semble. On travaillait ensemble à la brasserie de la Pleine Lune. Et puis avant, moi, j'ai eu participé au montage de deux bars-restaurants en scope. Un à Lyon qui s'appelle le Court-Circuit et un autre à Villeurbanne qui s'appelle le Biristan. Et donc Sylvain était mon fournisseur de bière. Il a découvert le modèle autogéré d'entreprise en scope. Et moi, j'étais chargé des approvisionnements en bière. Et donc, on est devenus copains. Lui habite dans le coin, donc... Et je venais souvent le voir et je trouvais le coin super joli. On a eu la chance de visiter qu'un bâtiment, c'est celui où on est. Et à partir de là, on a commencé les travaux. On a fait le choix d'une unité de brassage belge. C'est Co&Co, qui sont à Oskamp. Et eux, pendant qu'ils fabriquaient sur mesure notre unité de production, ils nous ont prêté une unité pilote de 60 litres avec le même logiciel de fonctionnement que sur notre brasserie actuelle. Donc ça nous a permis d'essayer nos recettes, de nous tester pendant les travaux. Entre-temps, nous, on aime bien le principe de cohérence à tous les étages. Donc, au-delà du fait qu'on bosse en local sur le malt, nos propriétaires, ce soit une SIC qui s'appelle Village Vivant, qu'on a été accompagné par l'Union Régionale des SCOP et une coopérative d'entreprise qui s'appelle Le Grenade. On est aussi chez Enercop, on est à la Mutuelle des SCOP. On ne fait que du fût, mais on fait un tout petit peu de bouteilles pour les locaux, avec des systèmes de remplissage. Donc, on ne travaille qu'avec ma bouteille, s'appelle Revient. On n'achète jamais de verre neuf, on ne fait que du lavage de bouteille. On consigne à 50 centimes la bouteille. Ça faisait sens aussi pour nous.
Rami, on va continuer ce reportage par une petite visite des lieux. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu ?
Alors, la brasserie est divisée en trois espaces distincts. Le lieu d'accueil du public, ce n'est pas un bar parce qu'on n'est pas sous licence, c'est une buvette en fait. On a le droit de vendre ce qu'on produit. On a une espèce de licence producteur. Donc on vient de terminer les travaux d'un espace buvette du coup qui fait une quarantaine de mètres carrés avec toilette PMR et voilà un espace chauffé, fermé qui va nous permettre, alors c'est pas encore défini, d'ouvrir aussi en hiver. On a décidé de faire un lieu assez petit parce qu'en été les gens sont dehors, donc ça servait à rien de faire quelque chose de trop grand pour cavaler entre l'intérieur et l'extérieur. Et à la fois, on sait qu'en hiver, ça va faire un petit lieu cosy qui va nous permettre de créer des petits moments au travers de, je pense, événements Petits événements, je pense à des concours de coinches. Là, il y a notre collègue, notre nouveau collègue Antoine qui est en train de faire une bande d'arcade. Voilà, et puis, puis à voir. En fait, tout est à construire, c'est ça qui est intéressant. Il y a tout à imaginer avec les gens aussi, ce que les gens nous proposent. Et je pense qu'on fera quelques concerts, enfin voilà, ce genre de choses. On peut même faire des petites projections ou des débats, discussions. Enfin voilà, je pense que l'idée, c'est surtout d'avoir un lieu qui permet de se rencontrer, de discuter, d'échanger et de boire de la bière artisanale et de la limonade artisanale. Voilà.
Tout ça à l'abri des conditions météorologiques un peu variables.
C'était l'enjeu, en fait, on n'avait pas l'agrément ERP, donc établissement recevant du public, donc on ne pouvait pas accueillir des gens en intérieur. Maintenant, c'est le cas, donc c'est super. Et l'été dernier, en fait, à chaque fois qu'il pleuvait, on annulait tout. Donc là, ça nous permet quand même d'assurer une certaine ouverture, une continuité du service. Et voilà. Et donc, on va essayer de pondre une espèce d'organisation et de programmation d'ouverture, là, pour cette année, cet été. On sera ouvert le vendredi et le samedi de 16h à 22h, avec une fin de service à 21h30. Et à partir du 21 avril, démarreront les prestations de restauration. Donc, on aura la Maison Carballo à Saint-Jean qui va venir un vendredi sur deux. Et ensuite, on a une personne qui se lance en restauration, Sandra, qui va venir faire l'autre vendredi et une partie des samedis. Et puis, on aura peut-être quelqu'un qui viendra faire des crêpes et des gaufres pour compléter et avoir tout le temps de quoi faire.
Pour revenir un petit peu sur la configuration du lieu, donc on a toujours les tables à pique-nique à l'extérieur qui nous attendent, mais avec un petit chapiteau pour nous protéger de quelques gouttes de pluie. Et à l'intérieur, donc toujours ces grandes tables assez conviviales, tables à pique-nique, avec un bar tout en bois, et donc les tireuses derrière le bar. Qu'est-ce que j'oublie ?
Là, les tables, on les a mis comme ça pour le moment, et pareil pour les barnums en extérieur, parce qu'on ne sait pas quel temps il va faire aujourd'hui. Après, c'est un comptoir en récup, hein, donc c'est les portes qu'il y avait ici avant, qu'on a démontées, et ça nous a permis de faire un fronton de bar avec. Et voilà, on a un espace assez convivial, on a fait peindre pour voilà, essayer de donner un peu, rendre l'espace chaleureux, parce que ça reste un entrepôt et c'était gris sur blanc sur gris sur blanc. Voilà, on a fait deux grosses ouvertures en façade, donc ça fait rentrer de la lumière, ça rend vraiment bien. Et voilà.
Donc on va peut-être avancer en direction... Donc là, c'est pas l'entrepôt, c'est...
Là, c'est la production.
Ah oui, c'est là qu'on brasse.
Alors, la production s'organise... déjà, vous pourrez la voir du bar, parce qu'on a mis en une grosse porte vitrée, donc ça permettra aux gens de regarder. Et puis il nous manque juste le petit écriteau où il ne faut pas nourrir les brasseurs, parce que voilà. On a une partie donc purement ce qu'on appelle la salle à brasser, c'est là où on va mélanger le malt, donc la céréale maltée, avec de l'eau chaude et faire tout un tas d'enchaînements, d'opérations pour arriver à soutirer un jus sucré qu'on va refroidir et qui va derrière aller dans ce qu'on appelle les cuves de fermentation, qui est l'autre partie de la production. Je crois que le petit bloup-bloup que vous entendez, c'est une bière qu'on a brassée hier et qui a démarré sa fermentation d'ailleurs. Donc on a 4 cuves de 2000 litres, une cuve de 2500 litres et une cuve de 1000 litres qui nous sert soit à faire des bières vraiment particulières, soit à faire de la limonade. On fait de la limonade avec du jus de citron bio. Et après, le reste de l'espace, c'est du stockage de fûts propres, de fûts sales, enfin, c'est-à-dire de fûts à laver. On a une laveuse de fûts, une partie où on rack le malt, des frigos, un établi, des étagères à quincaillerie pour faire fonctionner tout ça. Au niveau du malt, on travaille quasiment exclusivement avec Avomalt, qui se trouve à Granges-les-Beaumont, à côté de Romans-sur-Isère. Donc on est 100% malt bio et local. Et après, sur le houblon, on varie. C'est un marché de comptoir qui est internationalisé. Donc on a à la fois des bières 100% locales avec houblon et malt locaux, des bières avec toujours du malt local, mais des houblons alsaciens ou allemands, et puis des bières avec des houblons américains.
Est-ce que vos bières ont une particularité ? Comment est-ce qu'on peut les décrire, les définir ?
Le projet de départ, c'était de faire des bières plutôt sèches. On n'aime pas trop, nous, le sucre dans la bière. Enfin, le côté rond, ça ne nous plaît pas trop. Et puis surtout, pour que ce soit désaltérant, une bière, il faut que ce soit sec. Donc, on fait des bières sèches, pintables, parce que l'enjeu, pareil, c'est vu qu'on ne fait pas de bouteilles, il faut que ce soit des bières de bar et de débit. Et puis ensuite, l'enjeu... c'est d'avoir une gamme. Nous, notre choix, ça a été de faire une gamme de 4 bières fixes. Et après, on fait que des collaborations. On a donc 4 bières de base. On a la Mokori, qui est notre bière blonde, qui titre à 4,5 degrés. C'est une bière qu'on fait donc uniquement avec du malt local et un houblon alsacien qui s'appelle le Mistral. Après, on a l'Ambré, la Sega, qui, pareil sur le malt, de toute façon, sera pareil pour toutes les bières. Et là, on est sur du houblon drômois avec houblonneur qui a étoile sur Rhône. La blanche, on houblonne avec du houblon allemand qui, bizarrement, s'appelle Solero. Mais pourquoi pas. Et après, on a la Roy, qui est notre IPA. Là, c'est plutôt du houblon américain. Et ensuite, on fait des collaborations, alors au gré des envies, au gré des idées, au gré aussi de ce qu'on a envie d'essayer.
Y a-t-il d'autres lieux où on peut consommer vos bières ?
Alors, dans le coin, on est à l'Auberge de Léoncel, on est à l'Auberge Refuge de Roibon à Herbouilly, au Café Brochier à Saint-Julien. On va être au Castel Fleury, bientôt à Arsolite, donc le nouveau lieu qui s'ouvre à Saint-Jean. On est également à Iboubox à Villard-de-Lans. J'ai peur d'en oublier là. Après, Romans-sur-Isère, Magmaterra. À Bourg-les-Valences, il y a un nouveau lieu qui est incroyable qui s'appelle Vacarme Exquis, qui est un bar-restaurant, salle de concert. Voilà un petit peu dans le coin. Après, c'est Lyon-Grenoble en partie.
On peut progresser peut-être vers le stock cette fois, le troisième espace de ce lieu.
Donc le troisième espace, c'est le stockage, donc qui est un peu en bordel, j'avoue, parce qu'on vient de finir les travaux, donc il y en a un peu de partout. Mais là, on stocke nos fûts. Et puis, c'est là où je prépare, en grande partie, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais de la livraison et du commercial, mais j'en fais une bonne partie pour le moment. Et c'est là où, voilà, on prépare les commandes, on charge et puis on part. La brasserie de la machine s'appelle la machine parce que, à la fois, il y a le col, mais il y a aussi le fait qu'on tourne autour de la salle à brasser, qui est un levier pour créer de l'emploi et développer des projets. Donc après, ça reste un stockage somme toute classique. Hein, y a des palettes avec des fûts.
Et le bazar ne se voit pas du tout à la radio, c'est l'avantage. Eh bien, merci beaucoup Rami pour toutes ces réponses. Et puis Radio Royan reviendra tendre son micro ce soir et profiter de l'ouverture de la nouvelle buvette à Saint-Laurent-en-Royan.
Eh bien, à tout à l'heure.
Ah, il y en a 5 en fait. Il y en a une qui est cachée là. Non, il y en a 3. Bah, moi je veux bien le IPA normal, comme j'ai goûté la côte.
Ah oui, moi aussi. Ouais, ouais.
Bah ouais, du coup.
Je remercie, j'ai goûté.
Santé ?
Un pas de côté.
Un grand merci donc à Rami, l'un des deux fondateurs de la brasserie artisanale et coopérative de la Machine à Saint-Laurent-en-Royan, pour son accueil lors de notre reportage. Damien, c'est déjà la fin d'Un pas de côté, le magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme. Un grand merci à nos auditrices et à nos auditeurs pour nous avoir suivis et on se retrouve au mois de mai pour la prochaine édition.
À très bientôt au mois de mai et en attendant, profitez bien de ce printemps qui arrive. Merci à toi, Anouchka, et merci à Gaëlle, à la régie.
Merci, Damien.
À bientôt.
Au mois prochain.
Un pas de côté.